Pour cette deuxième partie, donc, Sébastien Place, sénateur de l'Aude, on va voir quel est votre programme, quelles sont vos premières interventions au Sénat, puis évidemment le programme, c'est-à-dire ce pourquoi vous allez vous engager, non pas pour les mois qui viennent, mais pour les 6 années qui viennent. Vous avez fait quand même, je crois, une première, alors c'était votre toute première intervention sur le sujet des, alors un terme un peu barbare, les néonicotinoïdes. Pouvez-vous nous expliquer quel était le fond de votre argumentation ?
Oui, en fait, il y a des sujets de fond sur lesquels je me suis engagé à travailler, hein, qui sont notamment la
rappelons que vous êtes vigneron
oui, aussi.
De métier, c'est important de le rappeler peut-être.
Voilà, je vous disais, il y a les sujets de fond et puis il y a l'actualité. La question néonicotinoïde, c'est de l'actualité et nous sommes amenés du coup au Sénat à traiter les sujets d'actualité en priorité. Je ne dis pas qu'il faille abandonner les sujets de fond. Mais sur la question néonicotinoïde, moi qui suis vigneron, je vois les efforts qui ont été faits par notre filière, viticole depuis une vingtaine d'années sur notamment la mise en place des biocontrôles qui permet de répondre à ces problématiques et d'éviter en fait l'emploi important d'insecticides. Donc on va vers une viticulture beaucoup plus saine, beaucoup plus vertueuse. Et je comprends pas que aujourd'hui
que ça ne s'applique pas,
ça
par
s'applique
exemple,
pas aux autres, en particulier les bêtes raviées. Et je comprends pas que un texte européen est validé et entériné par tous les pays, interdisant ces substances-là, donc les néonicotinoïdes depuis 2016. Nous sommes en 2020, en 4 ans, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que nos amis betteraviers du nord de la France ont attendu d'être au bout du bout du système pour se plaindre qu'il n'existait aucune solution pour traiter leur problématique. Il n'y en a aucune, c'est vrai, aujourd'hui, en tout cas vraiment efficace, parce que personne ne s'est donné les moyens de rechercher des solutions alternatives. Et donc aujourd'hui, enfin cette année, ce secteur-là a subi problématique de jaunisse. Donc ils ont perdu 10 à 15% de leur chiffre d'affaires. 10 à 15%, vous savez, parfois on perd toute notre récolte au niveau viticole. Hein. Donc 15%, c'est l'équivalent d'une année moyenne, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans en arrière. Donc ce n'est pas non plus catastrophique. Donc sous cet argument-là, on nous dit il faut réintroduire des produits qui sont interdits. Donc chaque pays a le droit de proposer en fait de réintroduire des produits. En Europe, une dizaine ou 12 l'ont proposé cette année. Plusieurs pays se sont fait rétoquer par la Commission européenne. La Lituanie, la Roumanie n'ont pas pu réintroduire les néonicotinoïdes. Je pense qu'il y a une procédure contre la France qui va être engagée par l'Europe là aussi dessus. Et ensuite, il y a un problème constitutionnel là-dedans, c'est qu'on nous propose un projet de loi qui permet une réintroduction de produits interdits pour un seul type d'agriculture, et pourquoi pas les autres. J'ai pourquoi pas les céréaliers qui l'utilisaient par le passé.
C'est uniquement pour les betteraves.
Uniquement pour les betteraves. Donc moi j'ai posé la question du problème de constitutionnalité. Mmh. Il est clair. Oui. Il est possible que le Conseil constitutionnel rétoque cette décision.
Bon. Une petite précision quand même, alors plus technique, scientifique. Ces néonicotinoïdes, c'est ce qu'on appelle les tueurs d'abeilles. Ce sont les apiculteurs qui sont contre.
Alors il y a 1222 études internationales très sérieuses qui ont prouvé la dangerosité de des molécules contenues là, des néonicotinoïdes, les 3 ou 4 molécules, et leur impact sur la biodiversité, en particulier sur les abeilles. Voilà, très ciblé sur les abeilles. Et la biodiversité passe par la bonne santé.
La conservation notamment des abeilles.
Et surtout des abeilles. Donc c'est prouvé. C'est prouvé. Il a été décidé clairement, et Barbara Pompili, qui est ministre de l'Environnement aujourd'hui du gouvernement Macron, s'était réjoui à l'époque de l'interdiction des néonicotinoïdes. Même le président de la République en 2018 a tweeté là sur Internet le fait que terminé, il n'y aurait plus de tueurs d'abeilles. Et aujourd'hui, on y revient, parce qu'une filière le demande, parce qu'elle n'a pas tout à fait le travail qu'il fallait pour tenter de trouver des solutions alternatives. Mais ensuite, ce qu'on ne vous dit pas, ou très peu, c'est que c'est un problème aussi de libre-échange par rapport à cette industrie-là,
oui,
l'industrie sucrière. En France, nous ne sommes pas compétitifs. Voilà ce que l'on nous dit. C'est vrai, tout à fait. Donc on introduit des produits du sucre, du Brésil, d'autres pays, qui eux ont le droit d'utiliser. Et lors de l'examen de cette loi, c'est pour ça que je suis en colère, hein, parce qu'on nous dit pas tout, et c'est pas clair, on nous dit, mais on réintroduit pendant quelques années le temps de trouver une solution pour que notre filière soit compétitive. Mais à côté de ça, on importe des produits du sucre moins chers, en France, donc il vient en concurrence déloyale, il y a un dumping énorme qui est fait là-dessus, donc on affaiblit notre propre filière sucrière. Donc l'intérêt, c'est d'aider cette filière à trouver des solutions pour qu'elle puisse produire correctement à des moindres coûts, qu'elle soit compétitive. Et à côté de ça, il faut peut-être mettre des barrières aussi internationales. Moi, j'ai posé la question, est-ce que on ne pourrait pas conditionner en fait l'entrée de ces produits-là au même mode de conduite? C'est-à-dire on refuse les produits qui sont traités avec des néonicotinoïdes, des sucres.
Donc on est incohérent à la fois sur le plan de l'agriculture et du commerce international.
Et du commerce. Mais bon, on a l'habitude de
ce genre d'écartèlement.
Mais oui, c'est clair. Mais moi, je suis affolé quand on rentre dans ces sujets-là. On nous demande de voter une loi de réintroduction et on nous propose un amendement qui consiste à dire qu'on refuse, du coup, les produits importés de l'étranger avec une conduite utilisant des insecticides. C'est pas cohérent. Donc moi, j'ai posé la question, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interdit tout type d'importation agricole
faisant appel à ces produits-là,
ou dont les critères de conduite et critères sanitaires ne sont pas les mêmes que l'Europe. Bon, ben ça veut dire que du coup, on est contre le CETA. On ne produira pas de bœuf, alors.
Un traité de commerce international,
le CETA. Voilà, je pose la question. Est-ce qu'on va empêcher, du coup, le bœuf américain ou canadien de venir concurrencer le nôtre? Là, il n'y a pas de réponse de la part du ministre de l'Agriculture. Donc oui. C'est cette incohérence, moi, qui me pose problème. Et ensuite, sur le fond, je suis désolé. Si on veut vraiment aller vers une agriculture beaucoup plus vertueuse, respectueuse de l'environnement et une alimentation plus saine, ben, il faut qu'on se donne les moyens progressivement. Je ne dis pas du jour au lendemain. Hein. Vous savez, la recherche ne va pas plus vite que la parole. Hein.
Oui,
il faut
mais
du
là,
temps.
Vous dites
il y avait 4 ans, il ne s'est rien passé.
Pour se remuer.
Mais rien du tout. Donc, nous avons un député de l'Est de la France qui a proposé, qui a travaillé avec les filières, un plan B dit betterave, justement, qui consiste à définir un certain nombre d'évolutions dans les modes de pratique sur la betterave, c'est-à-dire de faire des cultures différenciées, de tourner sur les cultures, d'aller sur du biocontrôle.
De s'attaquer au problème.
De s'attaquer au problème de fond, pour que cette filière ne disparaisse pas. Parce qu'on nous fait un procès, ceux qui avons voté contre l'introduction des néonicotinoïdes, on nous dit, mais vous voulez tuer une filière complète. Non, moi, je ne veux pas tuer la filière des betteraviers, je veux tuer aucune filière agricole. Je veux trouver des solutions et que les pouvoirs publics qui ont des moyens mettent des moyens, justement, dans la recherche, pour que notre agriculture soit compétitive et plus saine. C'est tout. La différence, elle se fera là.
Voilà. Bon, en réalité, il faut prendre le taureau par les cornes, ce qui n'est pas fait à ce sujet-là. Quoi.
C'est un emplâtre sur une jambe de bois, cette affaire-là.
Toujours pareil, les lobbies plutôt que la recherche et les changements. Alors, Sébastien Pla, parmi vos... Un cheval de bataille, je crois que vous aviez déjà exprimé à ce même micro, en tant que sénateur, avant que vous soyez élu, maintenant vous l'êtes, ça va être la défense des collectivités territoriales. Une lutte contre ce que vous appelez une recentralisation.
Oui, tout à fait. Bon, alors, je veux dire, j'ai été maire, je suis conseiller régional encore. J'ai échangé il n'y a pas si longtemps que ça avec le président du département. C'est pas nouveau. Hein. Il y a un phénomène d'une dizaine d'années qui tend à augmenter les contraintes en fait des collectivités locales en leur donnant de plus en plus de compétences et à côté de ça en leur diminuant les moyens d'action et donc une perte totale d'autonomie. Bon, ça vise à quoi? En France, je disais lors d'une précédente émission, il y a trop de communes, soi-disant. Il y a 36 000 communes, il faut les diminuer. Donc pour les diminuer...
Il y en a un peu moins de 36 000 maintenant.
Ouais, il y en a 35 000 et quelques. Mais bon, c'est facile, hein, pour tuer son chien, vous l'accusez d'avoir la rage. Donc là, on vous met des contraintes, on vous enlève des compétences, et ensuite on vous dit, mais vous n'êtes pas capable de les gérer.
Oui,
donc vous servez à rien. Bon, mais moi, ça, c'est inacceptable. La richesse de la France, c'est justement ses communes et la proximité. Moi, j'ai toujours été
justement
un élu...
Justement, sa diversité, justement.
Mais bien sûr, sa diversité. Et on voit que les lois, les règles et les injonctions venant souvent d'en haut, de l'intérieur du périphérique parisien, ne sont pas forcément adaptées aux besoins du local. Donc moi, je crois beaucoup à l'autonomie des collectivités, je crois beaucoup à l'intelligence des élus locaux, parce que tous les jours, ils sont en confrontation directe avec la population, avec les problèmes économiques et les problèmes sociaux. C'est les mieux à même pour apporter des solutions. Donc, ne arrêtons de casser les services publics de proximité, arrêtons d'affaiblir les élus locaux, sinon demain on va avoir un pays qui ne fonctionnera pas. Voilà, je parlais de la casse du service public. Ben, vous voyez aujourd'hui où on en est arrivé. Avec la crise du Covid, demain on reconfine. Ça fait 6 mois que l'on a déconfiné le pays. J'ai reçu des représentants d'organisations hospitalières des EHPAD qui me disent « Mais écoutez, monsieur le sénateur, nous n'avons pas les moyens. Voilà, on n'a pas les masques, on n'a toujours pas de matériel. Les leçons ne sont pas
tirées.
Absolument pas. » Pose la question de l'hôpital public qui est complètement saturé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays est confiné. Bon, il y a des places et des lits dans le secteur privé. On n'est pas capable de trouver un terrain d'entente entre le public et le privé, justement pour réorienter un certain nombre de malades et sortir des lits qui permettent d'accueillir les malades Covid. Enfin, moi, j'hallucine. Hein. Quand j'écoute des auditions avec le ministre de la Santé il y a 15 jours,
que vous avez alors, pose ces questions-là, justement au Sénat.
C'est tabou de parler du privé. Mais il ne faut pas que ça soit tabou. L'intérêt majeur, c'est la santé à la population, quels que soient les moyens. Quand j'entends le ministre de l'économie qui nous dit l'économie, on doit la sauver, quels que soient les moyens, et qui nous annonce donc 400 milliards d'euros d'endettement supplémentaire, c'est-à-dire que le pays va passer à 3 000 milliards d'euros d'endettement, 117%, c'est énorme. C'est mes arrière-petits-enfants qui paieront cette dette-là.
Oui, oui.
Il parle de n'importe quel moyen. Et pourquoi la santé, on n'est pas capable de dire la même chose? Mettons tous les moyens nécessaires pour régler ce problème de santé.
Voilà, bien écoutez, c'est là-dessus, à l'orée donc de votre mandat de sénateur, parce qu'il y en aura d'autres et vous reviendrez argumenter à ce micro, Sébastien
avec
Plat.
Plaisir.
C'est là-dessus qu'on termine cette deuxième partie. On fait une seconde pause, mais on se retrouve après, Sébastien Plat, pour vous connaître un petit peu plus côté face. À tout de suite.